Alors, le syndrome hémolytique et urémique, c'est la cause la plus fréquente des insuffisances rénales aiguës chez les enfants de moins de 3 ans.
La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños de menos de 3 años, el síndrome hemolítico urémico, que es lo que está tratando ahora, que hemos cambiado de enfermedad.
Et donc, il y a trois éléments qui permettent d'en faire le diagnostic. Quand il y a une anémie avec des globules rouges qui se détruisent au niveau des petits vaisseaux du rein.
Hay una anemia hemolítica, o sea que se rompen los glóbulos rojos.
Une diminution des plaquettes, ce qu'on appelle une thrombopénie.
Disminución de plaquetas.
Et une insuffisance rénale, alors que jusque-là, il n'y avait pas de problème au niveau des reins.
Insuficiencia renal aguda, puesto que previamente estaba normal.
Dans la grande majorité des cas, chez l'enfant, la cause du syndrome hémolytique et urémique est après une infection, et le plus souvent, c'est des infections à un germe présente dans les tubes digestifs, qui est Escherichia coli, qui produit une toxine qui va aller abîmer les petits vaisseaux du rein.
La causa más frecuente es la postinfecciosa, que es debida a una toxina que libera la Escherichia coli, los casos que ha habido en Alemania.
Alors, vous êtes au courant de cette cause de syndrome hémolytique urémique parce que au cours de la dernière année, il y a eu une grande épidémie en Allemagne et on a accusé à tort l'Espagne d'avoir envoyé des concombres et ça a provoqué beaucoup de difficultés. Et donc, je pense que vous êtes au courant de cette maladie-là. Mais la souche responsable de la grande épidémie en Allemagne est différente de celle qu'on observe le plus souvent. Le plus souvent, c'est une souche qui est moins sévère et qui donne des formes moins sévères de la maladie.
Dice que se nos supone informados por la crisis de los pepinos, y, pero que el tipo del serotipo de Escherichia coli que da más frecuentemente a esta enfermedad no es la de Alemania, que será más grave, sino este que pone aquí.
Et puis il y a le syndrome hémolytique et urémique atypique, qui est beaucoup plus rare, qui constitue moins de 5% des cas chez l'enfant. C'est souvent familial et ça peut être associé à des anomalies génétiques, en particulier des mutations de gènes qui codent pour ce qu'on appelle la voie alterne du complément, qui est un facteur de défense important de l'organisme contre, en particulier contre des éléments infectieux.
El síndrome hemolítico urémico atípico constituye el 5% de los casos y muy frecuentemente tiene una base genética debido a mutaciones en los genes que codifican la vía del complemento alternativo. El complemento está implicado en la defensa natural del organismo frente a microbios tipo de la neumonía, meningitis, etc.
Alors, c'est dans les formes post-infectieuses, ce microbe Escherichia coli qui produit des toxines peut être présent dans le lait qui n'est pas pasteurisé ou dans la viande qui est insuffisamment cuite, dans le fromage non pasteurisé ou dans l'eau, et ça vient principalement des bovins, c'est-à-dire les bovins ont ce germe dans le tube digestif et qui n'a aucun effet pathologique chez les bovins.
Vemos que el principal portador de esta toxina es el ganado bovino, que no tiene ningún síntoma, pero hace que se contamine carne, leche, queso, agua, etcétera, y de humano a humano también.
Alors, ces bovins ont dans leurs excréments ce microbe. Ça peut contaminer l'eau et ensuite l'eau dans les réservoirs va être utilisée pour arroser les champs et ça peut contaminer de cette façon-là des flaques d'eau et donc c'est un réservoir important et donc c'est une source importante de dissémination de la maladie.
Los excrementos de estos animales son los que contaminan todo y es una fuente muy importante de esta enfermedad.
Alors, initialement, dans cette maladie, on a une diarrhée qui est souvent sanglante, l'anémie, la thrombopénie, l'insuffisance rénale aiguë qui va nécessiter pendant quelques jours, quelques semaines, une dialyse, et ceci dans la moitié des cas.
Vemos que es una presentación grave de la enfermedad, con diarrea, frecuentemente con sangre, anemia, plaquetas bajas, insuficiencia renal tan severa como que en un 50% de los casos necesitan diálisis los niños.
Il peut y avoir des complications en dehors du rein, en particulier au niveau du tube digestif avec des nécroses intestinales, au niveau du foie, au niveau du pancréas avec certaines formes de diabète et également des lésions au niveau du cerveau avec des convulsions ou un coma.
Puede haber afectaciones en otros órganos como que se necrose el intestino, problemas en el hígado, páncreas, convulsiones, problemas de corazón.
Il peut y avoir également au niveau du muscle cardiaque les petits vaisseaux du cœur et avec des lésions d'ischémie myocardique avec des formes très graves de la maladie. Et c'est pour ça que certains enfants peuvent mourir soit par atteinte neurologique, soit par atteinte cardiaque.
Es tan grave como que algunos niños pueden llegar a morir por problemas cardíacos y del sistema nervioso central.
À plus long terme, la majorité des enfants vont retrouver un rein qui fonctionne normalement au bout de quelques jours. Mais au cours de cet épisode, ils peuvent avoir détruit une partie de leur rein, et quand ils vont grandir, eh bien, ce qui reste de rein qui fonctionne bien n'est pas suffisant, et il va y avoir des séquelles, c'est-à-dire que lorsque la durée de l'insuffisance rénale aiguë est plus de 8 jours au début, eh bien, il y a un risque à long terme de séquelles rénales, voire hypertension, protéinurie, voire même insuffisance rénale chronique.
En principio es una enfermedad que se recupera totalmente, no se quedan con insuficiencia renal, pero en casos graves que han estado sin orinar nada más de 8 días, se pierde masa de riñón, digamos, y cuando pasan los años tienen hipertensión, proteinuria y llegan a desarrollar insuficiencia renal.
Alors, dans les formes atypiques de syndrome hémolytique urémique, donc c'est beaucoup plus rare, ça survient à n'importe quel âge, éventuellement chez des nouveau-nés, et habituellement, il n'y a pas de diarrhée sanglante.
En el síndrome hemolítico urémico atípico, se da más en niños pequeños si no hay la diarrea, no hay diarrea que lo preceda generalmente.
Contrairement à la forme post-infectieuse, les rechutes sont fréquentes.
A diferencia de la forma infecciosa, en este caso, las recaídas son muy frecuentes.
L'insuffisance rénale terminale survient dans 50 à 60% des cas.
De 50 à 60% tiene insuficiencia renal terminal. En nosotros hemos dicho aguda, aquí es permanente ya.
Ça peut être une maladie mortelle, en particulier chez les très jeunes enfants.
Es una enfermedad que puede ser mortal en niños especialmente muy pequeños.
Et contrairement à la forme post-infectieuse, en cas d'insuffisance rénale terminale, il y a un risque très important de récidive de la maladie après transplantation.
Y a diferencia del caso de la infecciosa en la que no recidiva si hay que trasplantar alguna vez, aquí hay un altísimo riesgo de recurrencia después del trasplante.
C'est une forme souvent familiale, avec éventuellement des frères ou des sœurs ou des parents atteints de la même maladie.
A menudo hay varios familiares afectos.
Alors, au cours des 10 dernières années, on a mis en évidence que dans 50 à 60% des formes atypiques, il y avait des anomalies au niveau de gènes qui codent pour les facteurs du complément.
En el 50-60% de los casos de síndrome hemolítico urémico atípico se ha visto que había anomalías genéticas en alguna de las proteínas de la vía del complemento.
Alors, ceci aboutit à une activation du complément qui a des conséquences néfastes et ceci montre les différents gènes qui peuvent être impliqués et donc il y a de très nombreux gènes différents dont les mutations peuvent favoriser la survenue du syndrome hémolytique et urémique atypique.
Aquí podemos ver distintas proteínas que pueden tener una mutación y que pueden dar lugar a la alteración en la vía del complemento y dar lugar al síndrome hemolítico urémico atípico.
Alors, on voit que là c'est l'expérience en France où on peut trouver des mutations du facteur H, du facteur I ou de MCP ou bien pas de mutation dans les formes atypiques et vous voyez que l'âge de début est souvent précoce, la grande majorité surviennent au début avant 2 ans.
Podemos ver que la edad de presentación es muy precoz, la mayoría antes de los 2 años de vida.
Que pour certaines anomalies génétiques, le début est souvent plus tardif.
Para algunas otras alteraciones es más tardío.
Et que le pronostic est mauvais en termes de survie rénale, c'est-à-dire des enfants qui continuent à avoir des reins qui fonctionnent correctement. Si on regarde à 5 ans, les syndromes hémolytiques et urémiques avec des mutations du facteur H, il n'y en a que un quart qui continuent, qui n'ont pas d'insuffisance rénale terminale.
Vemos que la supervivencia renal, quiere decir no estar en diálisis, es mala en esta enfermedad. Cuando hay una alteración del factor H, solo un cuarto de los pacientes no están en diálisis o trasplantados a los 5 años.
Par contre, dans d'autres types de mutations ou quand on ne trouve pas de mutation, eh bien la proportion de patients qui ont des reins qui continuent à fonctionner correctement est plus importante.
Cuando no encontramos mutación, hay una proporción más alta de pacientes que están sin necesidad de diálisis.
Donc c'est important d'avoir un diagnostic génétique, c'est-à-dire de retrouver, de rechercher et d'identifier l'anomalie génétique qui permet de prévoir ce qui va se passer ultérieurement.
Por lo tanto, es muy importante conocer el defecto genético que nos predecirá lo que va a ocurrir.
Alors, il y a des mutations qui sont nécessaires pour développer le syndrome hémolytique et urémique, mais ce n'est pas suffisant.
Il y a des mutations qui sont nécessaires pour que ça ocurra, mais pas suffisantes.
En effet, il y a seulement 10% de formes familiales.
Solo hay un 10% de formas familiares.
Et donc, ce qu'on appelle la pénétrance des mutations est environ 50%. Ça veut dire que 50% des sujets qui ont la mutation, 50% seulement, vont développer des symptômes. Les autres ne développeront jamais de symptômes.
Según las mutaciones en qué proteínas se encuentren, la penetrancia de la enfermedad es distinta. Quiere decir que, por ejemplo, en estos casos, CFH o MCP, el 50% de pacientes que tienen mutaciones en estos genes no llegan nunca a presentar la enfermedad.
Donc il y a d'autres facteurs qui interviennent qui sont des facteurs déclenchants de la maladie.
Por lo tanto, hay otros factores que intervienen que son los desencadenantes de la enfermedad.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement? jusqu'à il y a quelques années, c'était essentiellement, et les recommandations de la Société européenne de néphrologie pédiatrique étaient de commencer le traitement par plasma très rapidement après le début des symptômes.
Las recomendaciones de la Sociedad Europea son de empezar rápidamente con recambios de plasma lo antes posible.
Et il a été montré qu'il fallait donner des quantités de plasma importantes, et pour ça, si on a un enfant à qui on perfuse du plasma et qui est en insuffisance rénale aiguë, eh bien, on va lui injecter beaucoup trop de liquide et il va développer une hypertension et un œdème pulmonaire. Et c'est la raison pour laquelle ceci doit être fait sous forme d'échange plasmatique où on retire du plasma et on injecte du plasma normal.
Son niños que tienen insuficiencia renal, por lo tanto es posible que no orinen y hay que ponerles mucho plasma. Por lo tanto, y si se le pone mucho plasma de golpe, podrían tener problemas de volumen importante. Con lo cual, primero hay que sacarles plasma y ir poniendo plasma. Es una técnica compleja y cara.
Donc, c'est des traitements qui sont très lourds, surtout pour des tout petits enfants.
Es muy complejo para niños, sobre todo pequeños.
Alors, deuxième possibilité, chez des patients qui ont une mutation, des mutations, en particulier les mutations du facteur H, le facteur H étant une protéine qui intervient dans la voie du complément, mais qui est fabriquée par le foie.
Una opción de tratamiento es el trasplante hepatorrenal en pacientes con mutaciones en el factor H que se sintetiza, se produce en el hígado.
Donc, ce qui a été proposé, c'est de faire une greffe de foie et en même temps une greffe de rein parce que les reins ont été détruits par la maladie.
La propuesta es hacer un trasplante de hígado y de riñón, por supuesto que los riñones han estado destruidos por la enfermedad.
Alors, c'est une intervention lourde avec possibilité de complications et surtout ce dont on s'est aperçu avec l'expérience, c'est que au moment de la transplantation rénale et la transplantation hépatique, il fallait donner beaucoup de plasma normal le temps que le foie recommence après la transplantation à bien fonctionner et à produire la protéine, le facteur H.
Es un procedimiento complejo con un alto riesgo y además hay que esperar que el hígado esté ya lo suficientemente bien para que empiece a producir esta proteína de la cual el niño es deficitaria.
Et puis il est apparu maintenant depuis 2 ou 3 ans un nouvel espoir de traitement de ce syndrome hémolytique et urémique atypique avec un médicament qui s'appelle l'eculizumab et qui est un anticorps qui va se fixer sur une protéine qui intervient dans l'activation du complément.
Hay una muy buena noticia, que es que aparece un medicamento que es el eculizumab Soliris, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se fija con la molécula C5 del complemento y previene que aparezca esta enfermedad.
Donc je vous ai expliqué que ces différentes anomalies génétiques provoquaient l'activation de cette cascade du complément et on s'est aperçu que quand on donnait un anticorps qui bloquait l'activation du complément, eh bien, ça permettait d'avoir un effet extrêmement efficace sur la maladie.
Es un medicamento extraordinariamente eficaz en frenar esta cascada del complemento, que es la causa de la enfermedad y de las consecuencias de la misma.
Alors, ce médicament, ce n'est pas un médicament tout nouveau parce qu'il a été utilisé et approuvé dans une autre indication qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est une maladie très grave, des globules rouges et de l'hémoglobine. Et il a été montré que c'était efficace. Et ensuite, on a montré que c'était efficace dans le syndrome hémolytique et urémique.
Esta es una, este medicamento hace ya tiempo, hace años que está aprobado para la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad hematológica grave, y recientemente se ha aprobado por la FDA para el síndrome hemolítico urémico atípico.
Alors, le problème c'est que c'est un médicament qui est extrêmement cher.
Es muy caro.
Les études qui ont été effectuées, soit dans le cadre de, d'essais, soit des observations individuelles, montrent toutes que c'est un médicament qui est extrêmement efficace. Et depuis quelques mois, ça fait deux mois, les autorités américaines ont autorisé l'utilisation de l'eculizumab dans le syndrome hémolytique et urémique atypique.
Es caro, pero es muy, muy, muy efectivo. Por lo tanto, hace dos meses la FDA lo ha aprobado con la indicación de síndrome hemolítico urémico atípico.
Donc c'est maintenant le médicament que l'on utilise, soit lorsque la maladie se déclare, et il faut le faire très rapidement, soit pour éviter la récidive après transplantation rénale.
Por lo tanto, actualmente es el medicamento de elección tanto en casos que se inician de debut como en niños que se han de trasplantar para evitar la recidiva en el riñón trasplantado.
Voilà.
C'est tout. Merci beaucoup.
C'est tout.